Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'Épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.
Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle émission du Goût d'entreprendre. Nous allons rencontrer un homme qui est au service de votre vue, un opticien, certes, vous l'aurez compris, mais il a quelque chose d'un peu particulier, il bouge. Gwenaël Merliot se déplace à domicile, il a créé son entreprise en 2013 et se développe partout en France. 64% des Français portent des lunettes. 13 millions de paires sont vendues chaque année en France. C'est un marché considérable. Gwenaël Merliot a lancé une offre innovante. C'est un opticien qui bouge. Il vient tout simplement chez vous. Il fallait y penser. Vous l'avez fait. Vous êtes le premier opticien à avoir lancé en France un service d'optique à domicile. Bonjour Gwenaël Merliot.
Bonjour.
Donc vous êtes l'opticien qui bouge. Comment vous est venue cette idée ?
En fait, naturellement, moi, je travaillais en magasin traditionnel, on va dire, et j'avais des enfants de personnes âgées qui amenaient leurs parents assez tard le soir, après le travail, ou le samedi, mais en tout cas au moment où le magasin était le plus rempli, où il y avait le plus de monde, et donc ces personnes âgées n'étaient pas du tout à leur place, étaient complètement perdues, et on ne pouvait pas s'occuper d'eux facilement, et surtout bien les écouter. Faute de temps, voilà, parce qu'il fallait passer rapidement d'un client à un autre. Donc pas simple à mettre en place, et donc j'ai réfléchi à tout ça et assez rapidement l'idée de faire du domicile m'est venue en tête, et donc j'ai travaillé pendant deux ans sur le projet, sur le concept, pour pouvoir mettre ça en place et aller apporter mon magasin quelque part au domicile de mes clients.
Ah, ça a pris 2 ans pour mûrir votre projet.
Oui, tout à fait, oui. Mais déjà c'est pas simple de franchir le cap de monter son entreprise. C'est pas simple du tout
de passer du salariat à l'entrepreneuriat.
Voilà, tout à fait, donc là c'est déjà un grand pas à sauter. Et puis après, il faut faire une étude de marché, un business plan. Comme c'était une activité qui n'existait pas, il fallait tout créer, tout mettre en place, donc, et réfléchir à beaucoup de choses. Donc il n'y avait rien d'existant, donc il faut vraiment tout réfléchir et tout travailler pour pouvoir faire quelque chose de viable.
On a cru en votre projet, je dis on, c'est-à-dire les gens qui vous ont accompagné, des banques, les chambres de commerce par exemple.
Oui.
On vous a regardé comment, en disant ouh.
Oui, c'est un peu ça au départ. Alors comme ça a duré 2 ans, bon, moi mon discours c'est aussi un peu étayé, j'ai su mettre en avant ce qu'il fallait, et c'est vrai que sur la fin du projet, donc au niveau des banques, les banques m'ont toutes suivi. Je suis allé voir plusieurs banques et c'est ça qui m'a aussi rassuré, parce que bon, on a quand même des grosses périodes de doute sur un projet.
Bien sûr.
Et ça m'a beaucoup rassuré, je me suis dit ça tient la route, donc ça devrait pouvoir le faire.
Donc c'est en 2013 que vous avez commencé à apporter l'offre chez vos clients.
Tout à fait.
Alors comment vous avez trouvé vos premiers clients ?
Alors ça n'a pas été simple, après c'était de la publicité, simplement, donc c'est vrai qu'il a fallu réfléchir à des moyens de communiquer qui étaient pas très chers, parce que quand on lance une activité, bon, on n'a pas de gros moyens, et puis surtout quelque chose d'impactant, donc ça a été de la publicité sur les réseaux sociaux, dans des journaux, pour se faire connaître, et puis après c'est moi j'ai toujours misé sur le bouche à oreille, bien faire mon travail pour qu'on parle de moi autour de mes clients, et puis gagner les clients comme ça.
Vous êtes tout seul aujourd'hui donc dans l'entreprise? C'est vous qui avez créé, vous êtes à la tête d'un réseau.
Alors oui.
Depuis peu.
Depuis peu, ça fait 1 an à peu près que j'ai décidé de développer l'activité, enfin pas décidé, que j'ai lancé un réseau. Mm-hmm. Décidé, ça je l'ai fait il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant. Quand mon métier a un peu été médiatisé, que je suis passé à la télé, j'ai été contacté par beaucoup d'opticiens qui voulaient un coup de main pour les aider à créer aussi leur structure d'opticien à domicile. Et donc j'ai décidé de les aider sous forme d'un réseau de franchise. C'est un grand mot, mais en tout cas un réseau de partenariat avec des opticiens diplômés qui souhaitent monter leur activité sur leur région. Et donc moi je les aide à créer leur activité et à se développer sous le même nom que moi, donc l'opticien qui bouge.
L'opticien qui bouge, mais qui font ça à 100%. Ce ne sont pas des opticiens détachés de magasins d'optique, puisque ça existe ça.
Oui. Ça se fait naturellement par la force des choses. On a toujours une personne âgée à côté du magasin, ou peut-être même une maison de retraite, qui on va proposer de se déplacer sur des cas ponctuels. Non, ça c'est pas du tout le principe. De l'opticien qui bouge, on ne fait exclusivement que du domicile, et donc effectivement c'est des opticiens qui vont faire ça à 100% pour leur compte, pour développer leur activité à eux.
Est-ce que vous vous sentez plus proche des clients lorsque vous vous rendez chez eux? Ça change quelque chose au niveau de la relation client?
Ah oui, naturellement, c'est vrai que quand on est au magasin, les clients viennent chez nous, dans notre même si c'est pas notre magasin, mais ils viennent chez nous. Là, on vient chez eux, et donc l'approche est complètement différente. C'est déjà pas simple pour certains clients de faire venir les gens chez eux, parce que on rentre dans leur environnement de tous les jours. Donc ça ouvre à toute manière une relation qui va être beaucoup plus proche, beaucoup plus personnelle, et c'est, moi c'est ce que je recherchais aussi, hein, c'est beaucoup plus agréable. On va voir déjà comment ils vivent, donc comment ils vont utiliser leurs lunettes, et on va pouvoir les conseiller beaucoup plus facilement, et ils vont avoir un équipement qui va être vraiment fait pour eux.
Vous offrez vraiment du lien, de la proximité, c'est ce qui manque aujourd'hui?
Oui, alors je dis pas dans tous les magasins, non, mais c'est vrai non, que non. Quand on travaille dans les centres commerciaux, c'est ce qui manque, oui. Un client, c'est un numéro, c'est pas un numéro, mais enfin presque, il rentre, tout le monde a à peu près le même besoin au final, enfin c'est ce qu'on finit par croire, et on prend plus le temps de les écouter, de savoir exactement les besoins, comment ils les utilisent, ce qu'ils font. Il y a un test simple, vous pouvez demander à beaucoup d'opticiens quel est le métier de ton client, on sait pas. On pose même plus la question, on n'a pas le temps. Il y a une question de temps, et puis ben voilà, il faut s'occuper d'un maximum de personnes. Moi aujourd'hui, je vais voir un client, mon téléphone est coupé, je sais qu'il n'y a pas un autre client qui va rentrer, puisque je suis chez mon client, et mon téléphone est coupé, je ne vais pas être embêté par d'autres personnes qui appellent, et on prend le temps.
On peut dire que vous êtes un artisan de la vue.
Ah oui, tiens, ça me plaît bien.
Donc les clients aussi apprécient, j'imagine, cette approche directe. Est-ce que, j'allais dire, vous êtes plus cher ou moins cher qu'un opticien sédentaire?
Alors, il y avait plusieurs problématiques que je voulais vraiment pas avoir quand j'ai lancé l'activité. C'était déjà avoir moins de services qu'un magasin traditionnel. Je voulais justement que le fait de se déplacer, ça soit un service plus, mais pas un service qui en remplace un autre.
Donc, c'est-à-dire que vous avez le même matériel, tout aussi performant.
Ouais. Et mon offre est identique à un magasin traditionnel.
Vous pouvez tester la vue à domicile.
On peut vérifier la vision, tout à fait. Mm-hmm. J'ai ce qu'il faut pour le faire. Et donc, en fait, le service, il est à l'identique. Et justement, pour revenir à la question de prix, je voulais pas être plus cher. Je voulais pas que ça soit un service gratuit de déplacement, gratuit, mais qui soit dissimulé dans une hausse de la facture de 10 ou 15%. Ça, je voulais absolument pas. Donc, je me suis positionné pour être au juste prix, mais surtout pour jamais être au-dessus du prix d'un magasin. En règle générale, en moyenne, je peux pas vous dire que sur tous les produits, je vais être moins cher qu'un magasin, mais j'essaye en tout cas de l'être tout le temps.
Même face aux grandes enseignes qui affichent des offres particulièrement alléchantes,
vous
arrivez à rivaliser.
Je réduis ma marge. Et je me dis qu'un client qui sera content va parler de moi à côté, donc je vais gagner à ce niveau-là. Je vais faire plus de volume que de chiffres, mais voilà.
Les équipements sont chers, vous êtes d'accord avec moi?
Oui.
Est-ce que les produits sont chers ou est-ce que ce sont les opticiens qui ont une marge conséquente? On sait que l'UFC Que Choisir dénonce régulièrement des démarches exorbitantes de l'ordre de 3 fois et demi le prix d'achat.
Oui.
Pourquoi est-ce si cher?
Alors, mais on a des équipements qui coûtent cher. Alors, si on revient sur un magasin coûte très cher à entretenir. Donc ça, c'est une chose. Après, les produits, on les achète cher aussi. Et puis, il y a toute une mise en place. Faire les montages, tailler des verres pour mettre dans une monture, les machines coûtent très très cher. Donc voilà, tout ça, c'est des amortissements. Et effectivement, tout est répercuté sur le prix de vente. Mais comme dans tout commerce, on va faire le prix de vente en fonction de l'investissement qu'on a eu pour le magasin. Alors certes, c'est des équipements qui coûtent cher, mais on n'a pas le choix, les prix sont, on va dire, plus ou moins réels. Et on pourrait baisser un petit peu les prix, moi c'est ce que j'essaie de faire un maximum, de réduire un petit peu le prix de vente, mais on a quand même des coûts qui sont assez importants.
Des coûts de fonctionnement, c'est assez colossal comme marché en France, hein. 6 milliards d'euros le marché des lunettes, c'est quand même, ça donne un peu le tournis. C'est un marché qui connaît des bouleversements, tant au niveau des contraintes qui sont imposées par les mutuelles que par la distribution. Je pense notamment à la vente en ligne, est-ce que c'est une concurrence sérieuse pour vous et pour tous les opticiens?
Alors une concurrence sérieuse, non, et je pense que ça n'a jamais été fait pour que ce soit pour prendre une grande partie du marché. C'est juste pour s'adapter aux demandes des clients. Ça a été fait pour les clients qui vont peut-être rentrer très tard chez eux, les chefs d'entreprise qui vont absolument pas avoir le temps de se déplacer ou d'y penser. Ils vont aller sur internet, ils vont faire leur achat. Mais alors moi, peut-être que dans le fond, j'ai envie de les concurrencer aussi, ces sites internet, puisque les personnes qui n'ont pas le temps, elles peuvent m'appeler, je peux me déplacer sur leur lieu de travail ou à leur domicile. Ça peut être très tôt le matin, tard le soir, ça me pose pas de souci. Donc c'est pas une grande peur, de toute manière, dans le marché de l'optique, on n'a pas peur des sites internet, c'est pas un souci. Il en faut, parce qu'il y a des clients qui sont toujours intéressés, qui passent leur temps sur internet, qui vont vouloir acheter leurs lunettes sur internet. Il en faut, et c'est comme pour tout, il faut pouvoir contenter tout le monde. Et de toute manière, si ça a été créé, c'est qu'il y avait un besoin pour un certain type de client.
Voilà, ça va marcher une fois, vous voulez dire, on va commander les lunettes une fois, on s'apercevra que c'est difficile de les essayer, de les régler, de les ajuster.
Mais oui, parce qu'on va les recevoir, elles vont être trop grandes, on fait quoi après avec ces lunettes qui vont être un peu lâches? Alors soit on m'appelle, ou alors on va aller dans le magasin du coin, mais on va être obligé de se déplacer quand même. Donc il manque quelque chose dans le service qui va pas être complet. Donc les gens en général achètent une fois et puis ils achètent pas une deuxième fois, donc c'est pas...
Ça vous fait pas peur?
Non.
Gwenaëlle, il faut que vous arriviez à voir combien de clients sur la journée pour être rentable, pour que votre entreprise soit rentable.
C'est hyper aléatoire, parce que j'ai tout type de clients et des clients qui vont avoir plus ou moins de moyens. Moi, j'interviens par exemple sur la centrale de détention de Muret où c'est des petits budgets. Donc, c'est sûr qu'on va pas avoir le même ratio que si je vois trois cadres ou trois chefs d'entreprise sur notre journée. Donc, c'est pas... On me pose souvent la question et c'est... Je peux pas dire sur une journée, je peux pas dire, il y a des fois je vais voir une personne, des fois je vais en voir 10, c'est très très aléatoire.
L'opticien qui bouge, vous ne bougez pas, on se retrouve tout de suite.
Le goût d'entreprendre, Doris Pradal.
Seconde partie du goût d'entreprendre avec l'opticien qui bouge. Il s'appelle Gwenaëlle Merliot. Bonjour Michel Dagra.
Bonjour.
Référent éthique sur Radio Présence. Et première question à notre invité. Vous l'avez bien vu?
Oui, oui, j'ai bien vu. Oui, justement, le domaine de son activité professionnelle, le domaine de la vue, c'est quand même pas quelconque. Hein. Ce n'est pas comme simplement fabriquer des voitures ou des chaussures, que sais-je. La vue, voir. Quand on dit « tu vois ce que je veux dire », c'est une manière de mettre en valeur, justement, ce sens de la vue, voir, c'est fort important. Eh bien, quelle est votre vision du monde, en général, mais en partant de très précis, de très particulier, vous rencontrez le client chez lui, ça c'est vraiment une accentuation du service, au lieu de l'accueillir dans un magasin, c'est vous qui vous déplacez chez lui. Ce mouvement-là même est intéressant, mais... Qu'est-ce que ça touche à votre vision de l'homme que de faire ce type de travail?
Il y a plusieurs choses. Moi, je fais déjà un métier que j'aime et dans lequel je m'épanouis énormément. Donc ça, déjà, bon, c'est important. Le fait de le faire de cette manière-là, je vais aller rencontrer des personnes qui souvent ne voient personne de la journée ou pas de la semaine. Des fois, dans les établissements, ils voient certes le personnel d'encadrement, mais ils ne voient pas leur famille. Et moi déjà, c'est prendre le temps avec ces personnes. Et des fois, on va prendre une demi-heure pour s'occuper des lunettes, et je vais rester une heure parce que on va parler de l'histoire de cette personne, on va parler de divers sujets. Mais voilà, c'est un moment que je vais passer qui va m'apporter énormément. Et donc voilà, pour moi, c'était une notion hyper importante. Ça, c'est quelque chose qu'on peut absolument pas faire en magasin.
Vous vous rendez compte de la révolution dans votre propos? Nous étions tout à l'heure avec quelqu'un qui nous disait qu'il faut aller vite. Et vous vous dites tranquillement, je prends le temps.
Oui.
Je prends le temps. C'est fabuleux, ça. Ouais. Aujourd'hui, dire je prends le temps, rien que ça, on n'a plus envie de regarder vos lunettes, mais de vous emmener à la maison un peu.
Juste pour discuter.
Mais oui, du temps.
Peut-être pas, mais j'essaie un maximum de le prendre. C'est vrai qu'on est dans une vie où on court tout le temps. Alors je vais aller voir des clients où ils sont très pressés, et c'est pour ça qu'ils m'appellent. Et ça va durer un quart d'heure, 20 minutes, c'est réglé, on se dit au revoir et je repars. C'est pas... Mais il y a des personnes, je le sens, et j'essaie de caler mes rendez-vous pour pas que ça chevauche sur un autre, pour pas courir après. Mais j'essaie toujours de prendre le temps qu'il faut pour pouvoir passer un bon moment avec la personne, parce que je sais que cette personne va sans doute passer un bon moment, mais moi aussi. Et j'ai envie de passer
un
bon moment. Ah oui, complètement.
C'est l'aspect humain, en fait.
Ah oui, que je n'avais absolument pas en magasin. Voilà. Enfin, ou très peu. Alors, je l'avais avec mes collègues, mais pas avec les clients. Et découvrir de nouvelles personnes tous les jours, mais c'est extraordinaire.
Cette richesse de l'écoute est quelque chose de particulier.
Une grande richesse.
Impressionnant, oui.
D'accord, ouais.
Okay. Prendre le temps.
On y va, Michel, on va pas prendre trop de temps quand même.
Moi je rentre dans dans la culture, là, je prends mon temps, là, j'ai envie de prendre mon temps. C'est formidable.
Gwenaëlle, est-ce que la réglementation est différente pour un opticien qui bouge ou pour un opticien sédentaire?
Non, on a des règles.
Les diplômes sont les mêmes.
Voilà, le BTS d'opticien lunetier, et après il y a des règles qui sont établies, qu'il faut respecter, qu'on soit en magasin ou pas en magasin, faut les respecter.
Toutefois, vous sélectionnez rigoureusement vos franchisés. Alors on en revient à votre sens des valeurs, au contact. Les gens avec qui vous allez travailler dans toute la France, qui commencent à s'installer d'ailleurs toute la France, doivent avoir les mêmes valeurs que vous.
Voilà, exactement.
C'est
les mêmes valeurs. Je ne cherche pas des personnes identiques à moi, parce que ce ne serait pas intéressant du tout. Mais voilà, avec les mêmes valeurs et surtout la même envie que moi d'aller au contact des personnes et justement de partager des moments avec nos clients. Donc voilà, le but, c'est pas forcément de se développer avec 10 nouveaux opticiens tous les mois, mais en tout cas d'en avoir au moins un et qui va correspondre, voilà, avec qui on va pouvoir travailler sur le long terme. On part sur des contrats de 5 ans. Moi, j'ai envie que ça se passe bien pendant 5 ans. J'ai envie qu'on aille dans le même sens, qu'on perde pas de temps, justement, à pas être d'accord, à pas voir les choses de la même manière. Parce que moi, le but aussi, c'est de développer l'opticien qui bouge, pas tout seul, mais avec ses franchisés. C'est pas, on fait pas ça pour un mois ou deux mois. On fait ça pour sur le long terme, pour évoluer ensemble et voilà, et aller dans la même direction.
Quand on voit le temps qu'il faut justement pour obtenir un rendez-vous chez un ophtalmo aujourd'hui, c'est assez impressionnant.
Oui.
Et là, tout d'un coup, on se retrouve côté lunettes avec à disposition quelqu'un qui vous permet d'avoir vos verres sur le nez. Il y a un contraste très fort.
Tout
là.
À fait.
Et comment vous le vivez là, ça vous fait quoi, ça, de voir ces délais considérables pour obtenir une visite chez un ophtalmo?
Alors ça s'arrange pas en plus, parce que les délais sont encore plus longs à cette année. Mais c'est pas simple parce qu'on va tomber sur des personnes qui auraient besoin d'un contrôle rapide de la vue, parce que pour X ou Y raison, et on se retrouve avec des délais de 6 à 8 mois. Donc la loi a été un petit peu allégée à ce niveau-là, puisque maintenant on a le droit, sur des ordonnances de moins de 3 ans, de faire une vérification de correction et de modifier nous-mêmes la prescription en informant l'ophtalmologiste. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est absolument pas connu du grand public. Souvent, nos clients sont assez étonnés quand on leur donne cette information. Ça se tend encore à se développer un petit peu. Alors après, le seul inconvénient, c'est que c'est pas du tout un acte médical. Alors, quand je parle d'inconvénient, c'est pour le client. C'est-à-dire qu'on va simplement vérifier la correction, mais on va pas aller faire un fond d'œil, on va pas aller prendre...
S'il y a un problème médical, vous ne pourrez pas le déceler.
Alors, c'est à nous aussi d'orienter notre client et de l'informer de tout ça. Mais c'est vrai que ça nous permet, pour certains clients, de pouvoir régler certaines problématiques plus rapidement.
Alors le marché français se caractérise aussi par l'abondance de points de vente. Ils sont bien plus nombreux que dans la plupart des pays. À titre d'exemple, la France, c'est un point de vente pour 5400 habitants et un pour 15 000 aux États-Unis. Alors, il y a encore de la place. Non. Pourquoi y a-t-il autant d'opticiens? Vous allez dans un centre-ville, il n'est pas rare de trouver 3, 4, 5 opticiens dans la même rue.
Alors, a priori, il y en a trop.
Ça rapporte, c'est ça. Ça marche lucratif.
Ça l'a été, en tout cas, il y a quelques années. C'est là où tous les magasins ça s'est vraiment développé. Aujourd'hui, on se rend compte que depuis quelques années, il y a des magasins qui ferment. De plus en plus de magasins qui ferment. Parce que, même si la population vieillit, donc la population va porter davantage des lunettes de plus en plus longtemps, et de plus en plus jeune aussi avec les tablettes, les smartphones. Il y a quand même un besoin qui se développe, mais aujourd'hui, il y a beaucoup trop de magasins. Et c'est aussi le fait de proposer un service en plus, et surtout un service différent de faire du domicile, qui a toute son importance dans le développement du métier.
Ouais, tout à fait. C'est vraiment une approche différente.
Vous êtes perçu comme un concurrent par les magasins?
Oui, parce que je vends des lunettes. Donc, c'est une offre différente, donc c'est comme deux magasins de grandes marques, de grandes enseignes qui vont proposer deux choses différentes, deux offres commerciales différentes. Oui, je suis un concurrent. Oui.
Je vous propose d'allonger la raison sociale de votre entreprise et de l'appeler l'opticien qui bouge en prenant son temps.
Oui.
C'est une des choses que je retiens, que je vois façon la plus vive.
Dès qu'on peut, il faut prendre son temps. Voilà. Dès qu'on peut, on peut pas tout le temps. Je peux pas tout le temps. Je pourrais pas développer mon activité comme je la développe si je prenais mon temps tout le temps. Mais des fois, ça fait du bien.
Comment vous voyez évoluer votre entreprise?
Je dois continuer surtout à être en contact avec les clients, avec mes clients. Ça, c'est important pour moi parce que c'est comme ça que je m'épanouis. Et puis, accompagner les opticiens pour développer leur activité d'opticien à domicile sur leur région, c'est aussi une autre approche du métier. Une autre facette du métier que je connaissais pas, que je découvre, mais qui est aussi très très intéressante parce que je les aide à s'enrichir de leur métier et c'est aussi très, ça apporte beaucoup.
Oui, vous sentez qu'il y a de la demande, en fait, il y a un vrai échange avec les professionnels.
Ah, tout à fait, oui, je suis en contact régulièrement avec les opticiens qui travaillent avec moi ou pas, mais je suis en contact tous les jours, j'ai des opticiens au téléphone et on voit qu'il y a vraiment un intérêt et que cette notion de service plus est très importante. Et ce qui est rassurant, c'est qu'elle est très importante pour les jeunes opticiens.
C'est ça.
Oui.
D'accord. Qui arrivent.
Qui arrivent sur le métier et qui se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'on leur a vendu à l'école, le magasin. Que c'est très très commercial. Qu'on ne fait que ça. Que du commercial. Et que le contact avec le client, il n'existe plus.
Et surtout sur un domaine comme celui de la vue.
Et oui.
Et voir, c'est tellement mythique.
Et c'est une profession quand même paramédicale. Ça, on l'oublie beaucoup. Nos clients l'oublient.
C'est ça. C'est pas que du business.
Non, c'est pas que ça.
Vendre telle marque, telle marge. Voilà. On forme beaucoup d'opticiens encore.
Il y en a un peu plus de 2000 qui sortent tous les ans de l'école.
Facile de trouver un job dans le secteur?
Alors non, parce que ça devient de plus en plus compliqué, parce que les magasins, voilà, leurs chiffres sont en baisse, donc ils ont un peu de mal à embaucher. Donc c'est sûr que oui, en quelques années, il y a autant d'opticiens qui sortent des écoles, mais il y a beaucoup moins de places de disponibles.
Michel.
Oh, je suis très heureux de vous avoir entendu. Bon, il y a la question de la vue qui m'impressionne beaucoup, évidemment. Nous sommes tellement démunis dès que la vue baisse, tellement perplexes quand il faut courir après un ophtalmo inaccessible. Mm-hmm. Mais je retiens votre histoire avec une ordonnance de moins de 3 ans, je peux vous inviter chez moi, me faire boire un coup et puis me faire réviser la vision. C'est super. Ah,
avec modération.
Voilà, et en prenant notre temps.
Voilà. Tout à fait.
Est-ce qu'il y aurait, à votre avis, des choses à changer au niveau de la réglementation dans votre métier actuellement pour faire bouger les choses, puisque vous êtes un opticien qui bouge?
Oui, il y a toujours beaucoup de choses à faire évoluer. Après, c'est sûr qu'on en parlait au niveau des rendez-vous auprès des ophtalmos. Voilà, ce délai de 3 ans pour les ordonnances, il faudrait l'allonger à 5 ans dans certains cas. Mmh. Chez les personnes qui ont des corrections sans problématique, sans pathologie derrière, où on peut très bien vérifier les corrections, on peut faire évoluer les corrections. Donc déjà, ça serait parfait. Ou tout simplement revenir sur une loi qui est en place depuis le début d'année, où les lunettes, on peut les changer que tous les 2 ans. Donc ça, c'est depuis janvier. Dans certains cas, c'est vrai qu'il y a eu des abus de la part de certains clients ou de certains opticiens de changer les lunettes des clients tous les ans, alors qu'il n'y avait pas besoin. Par contre, dans d'autres cas, dans certains cas, quand les lunettes sont cassées et qu'on peut strictement rien faire et qu'il faut absolument les changer, les clients se retrouvent sans aucun remboursement. Et là, c'est quand même embêtant. Donc, revenir juste simplement déjà sur cette loi, ça serait pas mal.
Il y a la pression des mutuelles.
Qui est énorme.
Et énorme, de plus en plus forte.
Et oui, ils créent ce qu'on appelle des réseaux fermés, où ils orientent leurs clients chez des opticiens partenaires.
Voilà, exactement.
Voilà. Donc, le libre choix pour les clients, il n'existe plus. Mm-hmm. Parce que forcément, ils vont mieux rembourser leurs clients mutuels chez un opticien partenaire.
Et c'est pas toujours un avantage pour cet opticien partenaire.
Ah non.
Qui doit revoir ses prix
nettement à la baisse. Mm-hmm. Voilà. Donc non, c'est pas intéressant. Ils jouent sur le volume de clients potentiels. Mais c'est pas intéressant du tout. Donc, moi, je fais pas partie de ce genre de réseau. Parce que dans la démarche et dans la dynamique, ça m'intéresse absolument pas. Je veux que le client, s'il me choisit, c'est parce qu'il a envie d'acheter ses lunettes avec moi. Et puis, comme je propose en plus un service différent et en plus, il y a pas de, on se pose pas la question.
Vous voulez rester indépendant?
Oui. Complètement indépendant.
Michel?
Non, ça y est, je suis satisfait. J'y vois bien mieux que
bien plus clair. Bon.
Gwenaëlle, on va peut-être rappeler votre adresse. Alors, on peut vous joindre facilement sur le net.
Oui, sur le net, sur le site www.lopticienquibouge.fr, où là, vous allez retrouver mes coordonnées, les coordonnées des partenaires sur diverses régions.
D'accord. Vous déplacez, vous êtes basé physiquement à Toulouse et vous déplacez dans un rayon de combien de kilomètres?
40-50 kilomètres autour de Toulouse. Donc, un rayon assez large. Alors, c'est sur rendez-vous, mon contact, mes coordonnées sur le site internet et donc après je cale un rendez-vous sous 48 à 72 heures, normalement j'arrive à être chez vous.
Vous travaillez le samedi?
Oui, ça peut m'arriver. Le dimanche on va éviter quand
le
même.
Soir
déjà mes journées commencent à 6h30 le matin jusqu'à 20h à peu près le soir, donc on arrive à trouver un créneau.
Vous arrivez à vous occuper aussi à côté, j'allais dire, avoir une activité sociale?
Oui. Voilà. Ah oui, je fais partie de diverses associations ou organisations, déjà de chefs d'entreprise, pour rencontrer d'autres chefs d'entreprise et s'aider mutuellement. On est dans des entreprises où on est seul à gérer notre entreprise, donc il est important de se rencontrer pour on a les mêmes problématiques, donc pour en discuter. Et puis après, d'autres associations à but social.
Et pour conclure cette émission, si vous aviez un mot à dire sur l'entrepreneuriat, un ou deux? Belle aventure.
Premier mot, j'allais dire génial. C'est une aventure extraordinaire que je regrette absolument pas d'avoir fait. Il est dur de franchir le cap, mais il faut absolument le faire. Et surtout, prendre le temps de bien monter son projet, parce que on peut avoir des surprises. Il faut en avoir un minimum quand on lance son activité.
Merci beaucoup, Gwenaëlle Merriot.
Merci.
Gardez votre pêche et votre enthousiasme. Merci à vous, Michel Dagra.
Merci.
Entreprendre@radioprésence.com si vous souhaitez nous joindre. À bientôt.
Retrouvez cette émission sur decideurenregion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.